Anou.
Le monde est à moi.
Le monde est à toi.
Le monde est à lui.
Le monde est à elle.
Le monde est à vous.
Le monde est à eux.
Le monde est à nous.
Téléphone rose. Téléphone rose.
On m'a dit, je chuchote, j'ai chuchoté.
Alice Milo, Pauline Mocor.
Bienvenue à toi, bienvenue à vous.
Le monde est à nous.
On est bien tous ensemble.
Écoute, écoute.
Bah quoi, j'entends rien.
T'entends pas?
Bah non.
La rumeur gronde. Il paraît que rien ne va plus. La jeunesse est en colère.
On ne nous écoute pas, on ne nous comprend pas.
Alors voilà, pour toi, pour vous...
Cet été, on déroule le tapis rouge dans les rues, les boulevards, les sentiers du monde entier.
Chaque dimanche, on se donne rendez-vous, même heure, même endroit.
Sur RFI.
Ils sont 20 jeunes. Ils ont entre 18 et 25 ans. Et pour s'exprimer aujourd'hui, ce n'est pas le mégaphone ni les banderoles qu'ils ont pris.
C'est le microphone.
Dans le cortège, il y a Victor qui s'occupe de la sono, accompagné de ses deux passionnariats.
Salut, moi c'est Alice.
Salut, moi c'est Pauline.
Et tous les trois, on est là pour guider l'équipe dans cette aventure radiophonique.
Mais le monde est à nous, c'est aussi toi qui nous écoutes.
Et tu peux nous suivre.
Tu dois nous suivre.
Sur les réseaux sociaux.
Alors, monte le son, on arrive.
Aujourd'hui, on parle de discrimination, raciale, sociale, géographique ou de genre, où qu'elle soit, on les traque.
Et surtout, on se demande comment en finir avec les discriminations.
Quand on s'est réunis dans le salon de Pauline pour préparer cette émission, on n'était pas tous d'accord. La moitié de l'équipe voit tout de suite de quoi on parle, mais l'autre moitié ouvre de grands yeux ronds.
Les discriminations ? Non, franchement, ils voient pas le problème.
Par exemple, Omar est né à Neuilly de parents guinéens. Les discriminations, il connaît pas. Pour lui, c'est un truc de la vieille génération.
Philippine, elle, a pris conscience qu'être une femme, ça allait être compliqué. Quand au travail, elle a vu qu'elle était moins rémunérée que son collègue masculin, qui a pourtant le même profil qu'elle.
Et donc c'est là que Maud a haussé le ton, parce que elle habite à Coulommiers et qu'elle se sent victime de discrimination géographique.
Alors Lou s'est énervée parce qu'elle est rousse. Alors à ce moment-là, pourquoi ne pas dire que les roues aussi sont discriminées ?
Bref, on ne s'en sortait plus.
C'est alors que Xavier est intervenu. Il a dit « L'idéal, pour nous expliquer les discriminations, ce serait d'inviter Christiane Taubira. »
Parce que c'est quand même elle qui a défendu la loi autorisant le mariage homosexuel.
Et c'est aussi grâce à elle que la traite et l'esclavage ont été reconnus comme crimes contre l'humanité.
Alors là, pour Christiane Taubira, tout le monde était d'accord.
Christiane Taubira, bonjour.
Bonjour.
Kaina, Fabien, Fanny, Thomas et Geneviève, salut à vous.
Salut.
Salut, salut.
Fabien, tu as lu le livre « Murmure à la jeunesse » de Christiane Taubira ?
Oui. Bonjour Madame Taubira.
Bonjour Fabien.
Je voulais vous dire que j'ai beaucoup apprécié votre livre « Murmure à la jeunesse ». En le lisant, j'ai eu l'impression que vous nous lanciez un appel. Dans ce livre, vous expliquez qu'il y a toujours, aujourd'hui, et je reprends vos mots, des injustices et qu'il reste de belles causes à défendre. À vous lire, on a l'impression... que le combat ne vous appartient plus, à vous, les politiques, à vous, les anciens, à vous qui pourtant avez les manettes. Alors ma question est la suivante. Serait-ce donc aux jeunes, et uniquement aux jeunes, de reprendre le flambeau ?
Il revient à chaque fois à la génération de la jeunesse de se demander dans quelle société, dans quel monde elle veut vivre. Donc cela ne signifie pas que les adultes doivent s'exonérer de leurs propres responsabilités, mais la vitalité notamment de la démocratie, mais la vitalité de toute société, c'est lorsque la jeunesse se dit « mais je ne veux peut-être pas rester dans ce monde que mes parents et mes grands-parents ont modelé ». Je veux choisir mon monde. Et c'est ce que je vous dis, je pense qu'il y a un effort à faire de la part de ma génération pour assurer le relais. Pour vous passer le flambeau. Parce que moi, j'ai confiance en la jeunesse. J'ai le souci de la jeunesse depuis très longtemps, lorsque j'étais députée, et même avant de l'être, j'ai été prof d'ailleurs.
Et ce souci de la jeunesse que vous avez, Christiane Taubira, est-ce que c'est pour ça que vous avez accepté de venir à cette émission, Le Monde est à nous ?
Oui, bien entendu. D'abord, j'éprouve toujours un immense plaisir à être avec la jeunesse, parce que je suis curieuse de ses impatiences. Je pose juste une règle. Il faut toujours être correct et courtois vis-à-vis de son interlocuteur, son interlocutrice. Si les impatiences sont posées dans la correction et la courtoisie, elles sont bienvenues parce qu'elles nous permettent de comprendre aussi pourquoi la jeunesse piaffe. Qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de transformer les choses ? Donc oui, c'est la raison constante qui me conduit à répondre favorablement à des invitations de rencontres avec des jeunes.
Ça nous fait plaisir en tout cas. Bonjour Madame Taubira, moi c'est Fanny. Alors en préparant l'émission, comme on l'a dit tout à l'heure, notre camarade Oumar soutenait que les jeunes ne sentent plus du tout concernés par les discriminations, qu'en gros ce serait un problème complètement dépassé qui appartiennent aux anciennes générations du coup. Et moi je me demandais, parce que je suis absolument pas d'accord avec lui, est-ce que vous en pensez, si vous partagez ce sentiment que c'est un combat des anciennes générations?
Non, malheureusement, les discriminations sont réelles. À telle enseigne qu'en tant que garde des Sceaux, j'ai lancé une campagne contre les discriminations. Non seulement les discriminations sont une réalité, mais surtout les personnes qui sont victimes de discriminations ne sont pas toujours en mesure de se protéger, de se battre contre ces discriminations. Oui. Elles sont en fragilité psychologique, parce que quand vous galérez, que vous essayez d'avoir un emploi, on ne vous répond même pas, vous essayez d'avoir un logement, on vous dit non, on vous dit que c'est déjà pris, vous avez une amie qui appelle, vous savez que le logement est encore disponible, ça peut vous affaiblir. Et du coup, vous n'avez pas la force nécessaire pour saisir la justice qui est chargée, elle, de veiller au respect de nos libertés et de nos droits. Et
alors justement, Kaina voulait vous faire part d'une anecdote qu'elle a vécue il n'y a pas très longtemps.
Alors, Christiane Taubira, bonjour. Moi, c'est Kaina. Et donc, je voulais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a 2 ans. Alors, je suis à la gare de Nice avec ma cousine voilée. On fait la queue au guichet depuis un bon moment. Et puis là, contrôle de police. Donc, un des policiers prend ma carte d'identité française. Il voit que je m'appelle Kaina et que mon deuxième prénom est Christiane. Et il me demande d'un air soupçonneux: vous êtes vraiment française? Alors, Christiane Taubira, vous avez lancé le site Stop Discrimination, qui donne des infos comme par exemple que l'auteur d'une discrimination encourt 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ma question est donc de savoir, selon vous, est-ce que faire appel à la loi suffit pour mettre fin aux discriminations?
Non, bien entendu, ça ne suffit pas, mais c'est indispensable. C'est indispensable parce que ça rappelle que nous vivons dans une des républiques et dans une démocratie. Donc, lorsque la loi n'est pas respectée, il faut en appeler à la justice pour que la loi soit respectée. Et moi, je pense que pour lutter contre les discriminations, il faut sanctionner les auteurs de discrimination. Ça ne suffit pas, mais il faut les sanctionner. Qu'ils comprennent qu'il y a quand même un risque à ne pas respecter la devise de la République.
Thomas, ça reste quand même un beau prénom, Christiane, on est d'accord?
Je suis ravie de le partager avec vous, Kaina.
Said one word, one people. Yes, he said one word, one people. But I can see black and white fighting every day. But I can see black and white fighting every day.
Tikenja Fakoli, dans Le Monde est à nous.
Thomas, tu as la double nationalité franco-britannique et tu t'es senti concerné il y a quelques mois quand la déchéance de nationalité a fait débat en France suite aux attentats de 2015.
Oui, alors bonjour Madame Taubira, je me suis senti affecté car comme il n'est pas possible pour un État de produire des apatrides, seuls les individus ayant la double nationalité sont visés par cette loi. Alors vous avez démissionné de votre poste de ministre de la Justice suite à ce débat national. Pourquoi est-ce que la déchéance de nationalité vous est apparue comme non négociable?
Parce qu'elle touche à... D'abord, il était question d'introduire dans la Constitution, c'est-à-dire notre loi fondamentale, qui est vraiment le socle de toutes nos règles. Et c'est la suprématie des normes qui nous font vivre ensemble. Ensuite, parce que c'est une disposition profondément injuste, vous venez de le dire. Et puis, parce que ça touche à quelque chose de vraiment extrêmement essentiel et précieux. La construction républicaine du droit de la nationalité. Ça touche au droit du sol. Et ça introduisait quand même 2 catégories de citoyens français. Moi, je ne peux pas être complice de ça. je me bats justement pour la citoyenneté et pour que chacun exerce la plénitude des attributs de la citoyenneté, c'est-à-dire à la fois tous les droits qui sont attachés à la citoyenneté, mais les obligations aussi qui sont dans la citoyenneté. Donc pour moi, tout ça est absolument essentiel, même si ça paraît évanescent à certaines personnes, que ça paraît voilà faire beaucoup d'histoires pour peu de choses. Non, c'est vraiment fondamental, on touche à quelque chose de fondamental. Je ne peux pas accepter, moi, d'être garde des Sceaux dans un gouvernement qui sépare les citoyens, parce que c'est quand même l'histoire de la communauté nationale française. Son histoire, c'est que, voilà, les empires coloniaux, la circulation dans le monde, ça fait qu'aujourd'hui, on a des Français qui sont totalement Français, mais qui ont une ascendance dans d'autres pays du monde, et dans toutes sortes de pays du monde. Et d'ailleurs, lorsque j'ai démissionné, il y a des personnes, parmi les personnes qui sont venues me dire merci, parfois avec des larmes aux yeux, des hommes d'âge mûr avec des larmes aux yeux, il y avait des franco-russes, il y avait des franco-britanniques, il y avait, voilà, les citoyens français qui ont une double nationalité ont bien perçu, comme moi-même, qu'ils étaient la cible. Alors, pas délibérés. Le gouvernement ne les visait pas. Ils visaient les terroristes, kamikazes, qui n'ont absolument rien à faire de la nationalité, qui n'en ont rien à faire. La cible objective, les résultats auraient été justement de créer deux catégories de citoyens et donc d'écarter les binationaux, de les fragiliser. Nous sommes une nation civique. Nous pouvons être différents, mais nous vivons ensemble, nous avons les mêmes droits et les mêmes obligations.
Le monde est à nous.
Je vous signale, parce que vous m'entendez là, il ne faut pas perdre de vue que c'est vous l'avenir.
Bang.
Le monde est à nous.
Le monde est à nous, on parle des discriminations aujourd'hui.
Fabien habite à Ivry-sur-Seine, une banlieue parisienne au sud de Paris. Il a donné rendez-vous à Omar Lou Geneviève au parc des Cormailles pour interroger des promeneurs. Et c'est le micro-trottoir du jour.
Discrimination, incompréhension, manque d'attention, trop de tension, exclu de la société, souvent rejetée, t'es trop foncé ou t'es pas assez.
Alors bonjour Mario, alors j'ai une simple question pour vous. Est-ce que vous êtes déjà senti discriminé dans votre vie ?
Oui, mais il y a bien longtemps, quand j'étais jeune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 50 ans, je suis né en 1967 et je fais partie où j'étais le seul noir de la classe. Mais à l'époque, ce n'était pas trop la couleur de peau. La discrimination, c'était t'as des parents ou t'as pas de parents. T'as pas de papa, t'es un bâtard. C'était les mots vraiment, le mot bâtard et c'était le mot de l'époque. Hein. D'être parent divorcé, c'était vraiment terrible. C'était moins que d'être noir ou d'être arabe ou d'être chinois. Voilà, moi j'ai connu plutôt t'as un bâtard avant de sale noire. Et encore, je dirais même mieux, j'ai vu un certain racisme au niveau de l'orientation. Quand tu savais pas quoi faire comme étude, l'orientation était les Portugais dans le bâtiment, les Africains on va balayer les rues, les Antillais dans les hôpitaux. Voilà, là ça à un certain moment, ça c'est parti comme ça et ça a fait des années comme ça. Aujourd'hui ils ont changé le système d'orientation.
Quand je parle de discrimination, qu'est-ce que ça vous évoque directement ?
J'ai le souvenir d'un contrôle de police qui a dérapé au moment où le policier nous a vus en train de traîner dans un hall. Et c'est vrai que le hall était très insalubre, voilà, avec des crachats. C'était pas propre, il faut le dire. Et là-dessus, le policier nous sortir, ça vous rappelle le pays. Donc ça, c'est des choses vécues, mais vraiment presque au quotidien, quoi. Ça, c'est, voilà. C'est soit vous répondez et ça peut vite partir en vrille, soit vous faites la sourde oreille et puis vous faites mine de ne pas avoir entendu, quoi, voilà.
Ce que vous avez fait, j'imagine.
Bah ouais, parce qu'on n'allait pas se battre avec eux tous les jours, même si ça nous arrivait de leur tenir tête. Si c'était pour aller passer 4 heures au poste, c'était pas très intéressant. Et il y a le fameux contrôle, le délit de faciès, où effectivement, ils vont plus facilement contrôler un black ou un beurre, avec une espèce de suspicion un peu malsaine, alors que si vous êtes blond aux yeux bleus, et j'avais des amis qui étaient blonds aux yeux bleus, qui passaient plus facilement à travers les gouttes, voilà. De fait, on sait qu'on est discriminé depuis qu'on est tout petit. Encore une fois, nous, on a grandi avec. Et c'est presque fou qu'on ait vécu ça comme une normalité. Ça ne nous a pas empêché d'avancer parce qu'on a été entouré aussi. On avait des gens intelligents qui savaient nous faire comprendre que malgré la discrimination, on est tous pareils, on peut tous vivre ensemble, avancer, évoluer dans la vie, fort heureusement. Mais on n'a pas tous cette capacité-là. Et il y en a qui ont très mal vécu la discrimination et qui, de fait, aujourd'hui, sont devenus des gens qui discriminent à leur tour. Parce que c'est comme ça, si vous êtes élevé dans le racisme, si vous avez subi le racisme toute votre vie, bah un jour, quand vous devenez adulte, il se peut que vous soyez vous-même raciste.
Kaina, tu voulais réagir ?
Alors moi, ce micro-trottoir me fait penser à trois copines dont les parents leur ont mis en tête que parce qu'elles sont arabes, il faut qu'elles en fassent trois fois plus que les autres pour réussir. Donc je me demande si notre entourage, nos parents, ne sont pas à l'origine de notre autocensure.
En fait, vos parents vous veulent du bien. Et vos parents ont sous les yeux la réalité de la société. Donc ils vous demandent de faire plus d'efforts que d'autres. Ils vous demandent d'être irréprochables. Moi, je vous dirais qu'il faut faire beaucoup d'efforts et qu'il faut aller jusqu'au bout de vos capacités. Je vous le dis. Autant, je pense qu'il faut vraiment rigoureusement se battre pour faire disparaître les discriminations. Autant, il faut comprendre que les sociétés sont aussi le produit de l'histoire. Et l'histoire a installé des représentations dans la tête des gens qui produisent ces discriminations. Donc, c'est une réalité qu'il faut être encore plus déterminé, qu'il faut être encore plus offensif, qu'il faut être encore plus méritant d'une certaine façon. Donc, c'est injuste, mais ça fait partie des injustices de la vie. C'est dur à entendre, hein. Je sais que ce que je suis en train de vous dire, c'est très dur à entendre, mais c'est une réalité. Alors, là où c'est encore plus injuste, c'est qu'une personne, un jeune qui subit des discriminations et qui, par tempérament, est plutôt réservé, est plutôt vulnérable, évidemment, tout ça, ça l'écrase davantage. C'est pour ça qu'il faut lutter très fortement contre les discriminations. Et lutter contre les discriminations, ça n'est pas seulement réagir individuellement. L'action de groupe, ça permet de réagir collectivement. C'est aussi de comprendre la source des discriminations. Et c'est pour ça que moi, je vous invite, lorsque vous êtes conscient justement des luttes contre la discrimination, de lutter profondément contre le sexisme. Parce que, d'une certaine façon, le sexisme, c'est-à-dire la discrimination contre les femmes en tant que femmes, c'est la matrice des discriminations. Pourquoi ? Parce que le sexisme, c'est une discrimination qui est fondée sur la nature. Ça veut dire qu'un fait de nature, l'état de femme, justifie qu'on n'ait pas les mêmes droits, qu'on n'ait pas le même salaire, qu'on n'ait pas accès aux mêmes responsabilités, etc. Si on accepte ça, un rejet fondé sur l'état de nature, on permet tous les autres rejets. Donc il faut vraiment, dans les combats, arriver à articuler tout ça ensemble.
Geneviève ?
Oui, donc bonjour Madame Taubira, moi c'est Geneviève. Donc dans mon entourage, j'ai des proches qui ont l'habitude d'être discriminés. Par exemple, un ami à moi, qui est français d'origine sénégalaise, et qui a déposé de nombreux CV dans plusieurs secteurs. Mais dès lors que les recruteurs voient son nom et son prénom, on lui répond « il n'y a pas de place pour vous » sans vraiment lui donner de raison. Donc moi, ce que je me demande, c'est comment peut-on être bien sûr qu'il s'agit de discrimination et pas juste du hasard ou de la malchance ?
Alors, c'est bien de le poser ainsi parce qu'effectivement, il ne faut pas devenir paranoïaque non plus.
C'est ça.
Il ne faut pas considérer que chaque fois que quelqu'un vous a bousculé dans le métro, c'est du racisme.
Voilà.
Que chaque fois que vous n'avez pas obtenu un emploi, c'est du racisme. Donc, il faut rester lucide et moi, je suis très, très heureuse d'entendre la maturité de vos questions. Parce que vous voyez bien la complexité des choses et les nuances à introduire. Et ça, ça prouve que vous êtes vraiment armée pour la vie. Donc, comment distinguer ? Il est indiscutable qu'il y a des discriminations massives dans l'emploi. Ça, c'est indiscutable. Sur le nom, sur les hypothèses de confession, sur l'adresse. Donc, il y a des discriminations massives. C'est indiscutable. Il y a une quinzaine d'années, un mouvement engagé avec de nombreuses entreprises sur la diversité, avec une charte de la diversité. Plus de 3500 entreprises avaient signé cette charte de la diversité et s'étaient engagées à faire des efforts. Il y en a qui en ont fait, c'est indiscutable. Ça, c'est une démarche à entretenir ou à réenclencher. Mais ça ne doit pas suffire. Moi, je reste persuadée qu'il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Donc, il faut que les personnes qui ont l'impression d'être victimes des discriminations permettent à la justice de dire si oui ou non il y a discrimination. Et c'est pour ça que l'action de groupe est importante, parce que c'est vrai que tout seul, on se dit, je suis en train de galérer pour chercher un emploi, j'ai envoyé 200 CV, on ne m'a pas répondu, il faut que j'en écrive d'autres, j'ai pas le temps d'aller voir le procureur de la République. Donc l'action de groupe permet de se mettre ensemble, d'avoir de la force et de faire la justice avancer. Donc voilà, il faut quand même organiser dans la société la sensibilisation au fait que les discriminations sont inacceptables. Il faut sanctionner de façon exemplaire ceux qui se livrent à des discriminations. Et il faut faire en sorte que vous retrouviez la légèreté, la liberté qui sied à votre âge.
Et contre les discriminations, vive l'action collective et le monde est à nous.
Reste avec nous, on revient dans 3 minutes.
Thomas, Kaina, Fanny, Fabien et Geneviève continuent de questionner notre invitée, Christiane Taubira.
Ce sera juste après le flash et les nouvelles du monde.
Appelez-nous, exprimez.
C'est à lui.
Le monde est à elle.
Le monde est à vous.
Le monde est à nous.
Pauline Mocor, Alice Milot.
Salut à tous.
Le Monde est à nous, c'est tous les dimanches de l'été sur RFI.
L'émission est fabriquée par 20 jeunes qui ont entre 18 et 25 ans.
Dans le studio, Thomas, Kaina, Fanny, Fabien et Geneviève continuent de cogiter sur la question d'aujourd'hui.
Comment en finir avec les discriminations ?
Dans le studio, Christiane Taubira, ex-ministre de la Justice, est avec nous pour en parler. Elle a écrit « L'esclavage raconté à ma fille » et « Murmure à la jeunesse ».
Et Fabien, tu as une question pour notre invité.
Oui, Madame Taubira. En lisant votre livre, j'ai bien compris qu'il fallait qu'on agisse et que cela n'allait pas être simple. Mais concrètement, on fait quoi ? Moi, par exemple, je milite dans l'association Passeport Avenir. J'aide les jeunes issus des quartiers comme moi. Je les aide à croire en eux, à avoir de l'ambition, à construire leur projet professionnel. Maintenant, dites-nous, pour changer les choses, est-ce que vous parlez de ce genre de petits combats ou est-ce qu'il faut de plus grands combats à la Nelson Mandela ou à la Martin Luther King ?
Alors, ces petits combats ne sont pas si petits que ça. Et la jeunesse, elle a plutôt des élans de générosité, le désir de servir, d'aider, l'attention aux autres. Donc pour moi, ce ne sont pas des petits combats. Effectivement, je connais Passeport d'avenir et c'est essentiel.
Avenir.
Passeport à venir, pardon, c'est vrai.
Tout le monde fait l'erreur.
C'est essentiel parce que c'est un moment où des jeunes reprennent confiance en eux. Ils repartent d'un bon pas dans la vie. Donc c'est vraiment, c'est précieux, ça peut être délicat, ça peut être très discret, mais c'est extrêmement précieux. Donc il y a ça à faire, il y a toutes ces associations de la société civile qui interviennent dans le soutien scolaire, auprès des personnes âgées, qui interviennent dans tous les domaines, dans l'humanitaire. Donc il y a là des possibilités d'engagement. Il y a des possibilités d'engagement syndical dans votre milieu professionnel ou dans votre milieu d'étudiants universitaires. Et puis, il y a effectivement de plus grandes possibilités d'engagement. Mais il n'y a pas 36 Mandela par siècle, évidemment. Il ne faut pas que ça vous inhibe. Hein. Il faut simplement être sûr qu'on se bat pour les autres et avec les autres. Il faut juste être sûr de ça. Et on trouvera sa place. Vos ailes se déploieront. Et puis, si le prochain Mandela, c'est vous, eh bien, ce sera vous. Sinon, vous serez là et vous apporterez votre part parce que les belles causes sont de toute façon des causes collectives.
Le monde est à nous. Comment en finir avec les discriminations ? C'est la question qu'on pose aujourd'hui à Christiane Taubira.
Et Philippine, Thomas et Alexandre ont préparé la revue de presse.
Le monde est à nous.
Nous, on voulait faire un top des événements les plus discriminants de l'année.
Alors forcément, on a commencé par penser aux Oscars 2016, où aucun noir n'a été nommé.
Mais finalement, on s'est dit que c'était déjà vu et revu. Du coup, on a choisi de mettre en lumière trois discriminations, plus discrètes, mais tout aussi violentes.
Flop 3, c'est parti. Flop 1.
Dans la catégorie « Je vois l'homosexualité partout, même dans un sac à main », le prix est attribué au Sénégal.
Oui, ah oui, 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 oui ! Mais oui, bien sûr !
Tout commence en janvier 2016, lorsque Wally Seck, rappeur de son état, publie sur YouTube son clip Stay. Et là, comble de l'horreur, on découvre Wally Seck posant à côté d'un sac à main de femme.
À la boulette !
Ce sac, marron, pas très beau et plutôt unisexe, a déclenché une énorme polémique. Pendant plusieurs semaines, internautes et médias sénégalais s'en sont violemment pris à Wally Seck et à sa prétendue propagande homosexuelle.
C'est cela, oui, oui, oui.
Wally Seck, lui, n'a pas été le dernier à faire des remarques déplacées. Prenons par exemple sa déclaration au site people.sn.
Demandez à vos sœurs si je suis homosexuel.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin.
Et c'est pas tout. Lors d'un concert et devant un public en délire, Wally Seck a taillé en pièces le sac de la discorde. Sauf que pendant que Wally Seck et ses comparses font toute une histoire autour d'un sac à main, à Orlando, aux États-Unis, 49 personnes de la communauté LGBT se font assassiner en boîte de nuit. Sachez, messieurs, que l'homophobie, la biphobie et la transphobie tuent.
Flop 2. Dans la catégorie « On ne sait toujours pas si les transgenres sont des hommes ou des femmes, alors qu'en fait c'est pas nos oignons », le prix est décerné au Pakistan. L'histoire commence fin mai 2016 dans la ville de Peshawar, au nord du Pakistan. Alesha, une jeune femme transsexuelle de 23 ans, est blessée par balle par un gang transphobe.
Et maintenant, je vous dis tout !
Non !
La ferme !
Elle est alors conduite à l'hôpital, mais se voit refuser l'admission au service des femmes, puis au service des hommes. S'en suivent alors des heures d'agonie, avant que le directeur lui-même ne l'accepte dans une chambre privée. Mais il est trop tard.
C'est pas très bon, hein ? C'est même très mauvais.
Alesha,
a donc rejoint la liste des 45 victimes transsexuelles tuées dans la région nord du Pakistan ces 12 derniers mois. En réponse à sa mort, peu de réactions. Jusqu'à ce que Trans Action, l'association pour laquelle Alesh a milité, publie sur Facebook des photos de la jeune femme morte avec un message, pour le moins, manifeste.
Félicitations au gouvernement capé de la région. Tuez-nous tous, espèce de chien. Hashtag stop la transphobie.
Et puis si tu crois que ça n'arrive que chez les autres, détrompe-toi. Chez nous aussi, chez toi aussi qui nous écoutes. La transphobie tue tous les jours. En 2015, dans le monde, on ne comptait pas moins de 282 meurtres de personnes transgenres.
Flop 3.
Dans la catégorie même pas cap de protéger des femmes qui ont fui la guerre et la misère et qui doivent subir des violences sexuelles quotidiennes pour atteindre leur but, le prix est attribué à l'Europe.
Oui, oh oui, 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 ah oui, oui. 4 points, c'est score maximum.
Beaucoup de femmes, de plus en plus à vrai dire, quittent leur pays pour rejoindre nos côtes. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, on comptait en janvier 2016 54% de femmes et d'enfants contre 46% d'hommes.
C'est dingue ça.
Plus que tout, pour toutes ces femmes, ce sont les violences sexuelles qu'elles redoutent. Nala et Ala, deux Syriennes de 20 et 23 ans, racontent à Amnesty International comment la traversée vers l'Europe est dès le départ semée d'embûches.
À l'hôtel en Turquie, un des hommes travaillant avec le passeur m'a dit que si je couchais avec lui, je ne paierais pas. Bien entendu, j'ai dit non.
Vous vous foutez de moi, là, chambre, hein ? Vous vous foutez de moi, hein ?
Et même pour celles qui ont pu passer cette humiliation de départ, la suite n'est pas réjouissante. Les toilettes et les dortoirs sont mixtes. Certaines en viennent même à ne plus se nourrir ni s'hydrater pour être le moins possible au contact des hommes. Toutes les violences que vivent ces femmes au quotidien ont lieu dans ces camps de la honte, où elles attendent de savoir quand elles pourront enfin être libres de leur mouvement en Europe.
Les amis, au secours ! Une femme vient de mourir !
Thomas, tu veux réagir ?
Oui, on vient d'entendre des exemples de discrimination faites dans le monde à l'encontre de personnes transsexuelles et homosexuelles. Mais en France, ça existe aussi. Moi, j'ai des amies lesbiennes qui ne peuvent plus se tenir par la main dans la rue parce qu'elles sont brimées au quotidien. Alors moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer cette banalisation de l'homophobie en France qui nous concerne, nous les jeunes ?
Vous êtes à l'origine d'ailleurs de la loi autorisant le mariage pour les couples de même sexe ?
Oui, et c'est un combat pour l'égalité. En tout cas, je l'ai inscrit ainsi, un combat pour l'égalité, un combat pour la liberté de choisir son partenaire, sa partenaire, la liberté de rompre avec son partenaire, sa partenaire, l'égalité dans les droits, l'égalité de protéger les familles, quelle que soit la forme de la famille, de protéger les enfants, quelle que soit la forme de la famille, les enfants qui grandissent dans ces familles-là. Donc c'était vraiment une loi de liberté et une loi d'égalité. Et il y a des gestes symboliques qui sont importants. Je sais par exemple qu'il y a une pétition pour demander à l'UEFA de faire respecter une minute de silence pour les victimes du massacre d'Orlando. Ça, c'est un geste symbolique. Ce sera un acte symbolique dans un milieu qui s'est construit sur la force musculaire, la puissance, l'image du mâle tout puissant qui a eu du mal pendant longtemps. Donc, ces actes symboliques-là aussi comptent. C'est-à-dire qu'il faut donner la visibilité dans la société à des paroles, à des mots, de façon à ce que l'individu qui a de la toile d'araignée dans sa tête ou qui s'est pas encore dégagé d'un certain nombre de préjugés, qui comprennent que il peut crier sur sa véranda, hein, qu'il n'aime pas, hein, mais une fois qu'il est sorti, il est dans l'espace public et il respecte les autres.
Le Monde est à nous, l'émission qui fait le ménage des toiles d'araignée. Et Christiane Taubira est chez nous pour parler de discrimination.
Et le reportage du jour, c'est Thomas et Maud qui ont suivi l'association Club France Réussite, qui emmène des jeunes des quartiers populaires pour visiter des entreprises. Et là, direction le 13e arrondissement de Paris, où se trouve la rédaction du journal Le Monde.
L'entrée des journalistes, c'est grande classe, non ?
Oui.
Hein ? Allez, vous allez rentrer, vous allez...
Alors, on vient de rentrer dans le hall d'accueil. Les gens se prennent en photo, les jeunes sont curieux. Il y a même une élève qui se prend pour une caméraman. Comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Lilia.
T'as quel âge ?
J'ai 17 ans.
Okay. Et tu viens d'où ?
Je viens de Mantes-la-Jolie.
Et qu'est-ce que ça te fait d'être dans les locaux du Monde aujourd'hui ?
C'est très intéressant et c'est excitant aussi. Parce que c'est la première fois déjà que je viens. Et j'envisage peut-être des études de journalisme. Donc je sais que le Monde, on l'a au CDI. On le reçoit tous les jours.
C'est important pour toi de tous les jours le checker, le vérifier ?
Ouais, parce que déjà, je le paye pas, c'est intéressant.
Rachida Grahiri, je suis présidente de l'association Club FR pour France Réussite, qui œuvre pour le droit à l'information des jeunes des quartiers populaires en matière d'orientation scolaire et professionnelle. Le but de l'association est d'emmener les élèves directement chez les professionnels pour parler des filières, de leur parcours, mais aussi connaître un petit peu et voir leurs outils de travail.
Et ces jeunes, ils viennent d'où ?
Alors, ils viennent principalement des quartiers populaires d'Île-de-France. Là, aujourd'hui, pour le journal Le Monde, nous avons eu Mantes-la-Jolie et des jeunes de Boulogne-Billancourt.
Pour toi, quelle est l'importance de visiter Le Monde, un média important en France ?
De leur dire que c'est possible, qu'en fait, c'est ouvert, tout n'est pas fermé.
J'ai pris le train jusqu'ici, j'ai pris le métro 14, la ligne 14, j'ai pris la ligne 6 et je suis arrivée au devant ici, donc... Je me demandais à quoi, pendant tout le trajet, je me suis demandé qu'est-ce qui va m'attendre. Donc, la rédaction du Monde, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais vu en photo, j'ai rien vu. Comment ça va se passer?
Tu avais une question.
Et il y a combien de rédacteurs au Monde?
Alors, au Monde, il y a grosso modo un peu moins de 300 rédacteurs. Tous n'écrivent pas. Donc, dans les 300 journalistes, il y a différents types de journalisme. Et on fait pas tous la même chose.
Bon alors, c'était comment? Tout ça?
C'était très bien. J'ai les yeux qui brillent.
Et toi? Dora?
Moi, franchement, c'est super intéressant. Très bonne sortie. J'ai retenu plein de choses.
Et ça te plairait vraiment alors de continuer là-dedans?
De faire un stage ici? De faire un stage, oui, ça me plairait vraiment.
Est-ce que tu penses que le fait de venir de banlieue, entre guillemets, est-ce que ça peut te fermer des portes?
Je pense pas. Enfin... On dit ça, mais j'ai jamais ressenti ça, donc ça peut exister, mais c'est beaucoup de paroles pour rien.
Ouais. Et qu'est-ce que vous diriez aux gens qui, justement, alimentent ces clichés en disant que les gens de banlieue ne peuvent pas réussir autant qu'un mec du 16e ou quelque chose comme ça?
Il faut se donner les moyens, et ceux qui le disent mais qui ne sont pas des banlieues, il faut venir voir.
Voilà.
La démarche de l'association, en fait, c'est vraiment la première chose, donner de l'information. Quand vous avez des jeunes issus de milieux privilégiés qui ont de l'information, surtout dès le berceau, ça conditionne quand même leur futur. Moi, je viens du 93. Au lycée, je ne savais même pas que Sciences Po existait. Je ne savais même pas que je pouvais peut-être un jour faire polytechnique. Je ne savais pas que des métiers d'art comme la joaillerie existaient, etc. Parce que j'avais un manque d'informations. Et donc, je me suis toujours dit que je créerais une association pour transmettre de l'information aux jeunes de manière concrète.
Et est-ce que tu penses que ces jeunes, ils ont pleinement conscience du creuset discriminatoire qu'il y a à l'accès au journalisme ?
En fait, il y a un problème d'autocensure qui existe dans les quartiers. Si ces taux de censure-là existent, c'est parce que de l'autre côté, il y a un problème de discrimination sociale, d'accès à l'information. Donc quand un jeune qui se découvre une vocation trop tard parce qu'il a eu un manque d'information, ça reste discriminatoire.
Il faut oser. Bon, faut pas se dire, c'est pas pour moi. C'est vrai, moi, quand je suis arrivé au Monde, j'étais stagiaire, j'étais intimidé. Le Monde... Le journal le plus prestigieux de France, est-ce que je vais être au niveau, c'est intimidant. Il faut oser et se battre sans arrêt, sans haine, sans jouer les victimes, mais juste en étant positif. Voilà, je veux y arriver. Il faut trouver une motivation, il faut être motivé. Et pas se fermer, pas se dire c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais.
Mais je suis toujours un jeune de banlieue à leurs yeux, tous ceux qui me parlent avec condescendance, qui croient faire des blagues, toutes pérables, on n'a pas le même sens. Ni de l'humour, ni de l'amour, et pour la France, peu importe ce que je ferai, à jamais dans sa conscience, j'ai qu'un jeune de banlieue.
Kaina, tu veux réagir?
Alors ce reportage me fait penser à mon histoire personnelle. Avant, j'habitais à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, dans le 93. Et je vivais dans une cité, la Fontaine-Mallet, et j'allais dans une école classée ZEP, donc zone d'éducation prioritaire. Et honnêtement, ça ne m'a jamais gênée. Mais ma mère voulait le meilleur pour nous, alors on a déménagé à Paris. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut qu'on aille tous vivre à Paris pour avoir un avenir meilleur ?
Christiane Taubira.
Bien sûr que non. Dans une république égalitaire, où que l'on soit sur le territoire, on a les mêmes droits, on doit avoir le même accès à la connaissance, au savoir, à la culture. Donc c'est vrai qu'il y a des parents qui se démènent pour donner un maximum de chance à leurs enfants et ils se rendent compte que le premier geste à faire, c'est effectivement un geste géographique. Ce reportage est tout à fait passionnant parce que les sujets sont vraiment posés. C'est vrai qu'on peut être un très bon élève, mais on grandit dans un lieu qui, culturellement, sur le plan éducatif, est complètement déserté. On ne peut pas savoir ce qu'est le monde. Aujourd'hui, heureusement, avec les technologies de l'information et de la communication, on a accès à toute une série de choses. Mais ça n'est pas du savoir, ça. Je veux dire que c'est pas Wikipédia qui va faire de vous des gens brillants, cultivés, instruits et ayant le background nécessaire pour continuer votre chemin dans la vie. Donc l'environnement pèse beaucoup et les parents s'en rendent compte. Si leurs enfants grandissent dans un établissement où il n'y a pas de bibliothèque, où il n'y a pas de vie culturelle, où il n'y a pas de théâtre, ils se rendent compte que leurs enfants sont pénalisés, même si les enfants sont sérieux. Donc la question, ce n'est pas que tout le monde afflue sur Paris. La question est comment la puissance publique s'assure que sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire dans les banlieues, on parle beaucoup des banlieues, hein, dans la périphérie des grandes villes, mais également dans les communes rurales, comment les enfants de ce pays ont tous les mêmes chances. Et que la prochaine médaille Field puisse venir éventuellement d'une toute petite commune rurale, que le prochain Nobel de littérature soit une petite fille née dans une grande barre dans un immeuble de banlieue. Voilà, donc c'est la puissance publique qui doit assurer l'égalité des chances.
Bon, vous entendez, vous avez du boulot là.
Ouais, très beau message d'espoir quand même.
Geneviève, on t'écoute.
Alors oui, moi je suis malgache et mes parents m'ont transmis des traditions de Madagascar. Donc chez moi par exemple, on fait la prière avant de manger, on ne met pas de pièces dans les tirelires, on ne ramène pas de coquillages chez nous. Par exemple, on fait certains rites après certains enterrements. Donc du coup, moi j'aimerais transmettre ces traditions à mes enfants, que leur père soit malgache ou non. Et la question que je me demande, c'est est-ce qu'il faut transmettre les traditions à nos enfants, est-ce une richesse ou un poids qui pèse sur leurs épaules ?
Alors, dans les traditions, il y a des choses très conservatrices et très rétrogrades. C'est ça, Il ne faut jamais le perdre de vue. Dans les traditions, on dit que la femme est inférieure à l'homme, par exemple, dans un certain nombre de traditions. Pas toutes, mais il y a des traditions qui disent ça. Il y a des choses à transmettre parce qu'il est bon d'avoir plusieurs cultures. Mais ça ouvre l'esprit, ça prédispose à l'altérité, c'est-à-dire ça prépare les enfants à accepter la diversité du monde. Le monde est différent, voilà. Il n'y a qu'à jeter un œil, là, le panorama est absolument fantastique. Pourtant, nous ne sommes pas si nombreux que ça. Bon, lorsqu'on transmet, il faut avoir la bonne distance. Il faut faire très attention à ce que les traditions ne soient pas des prétextes rétrogrades. Ouais. C'est-à-dire que une tradition, ok, si elle dit que la femme est inférieure, vous pouvez la mettre à côté, hein, et même marcher dessus, d'accord?
Ça, c'est sûr.
Si, voilà, donc c'est juste ça la question qu'il faut se poser.
Faut faire le tri.
Qu'est-ce que je transmets?
Voilà. Faut faire le tri.
Oui, oui, indiscutablement, c'est ça l'individu libre dans sa tête, hein, et qui a son libre arbitre, qui a son propre jugement.
Et vous qui êtes née en Guyane, avez-vous transmis des traditions à vos 4 enfants?
Oui, oui, bien entendu. Mais avec cette distance que je viens d'indiquer, oui, il y a des choses. Moi, là, dans la culture créole, il y a des tas de choses. Alors, je ris beaucoup avec mes enfants de proverbes créoles. On appelle ça des dolos,
par exemple,
qui sont parfois très.
On veut un exemple.
Des pages. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Alors, un exemple de courage, par exemple, un dolo de courage, c'était pas bien trop lourd pour l'estomac. Que la poitrine, quel que soit son volume, ben l'estomac peut la supporter. Donc, quelles que soient les situations dans laquelle on peut se trouver, on est en capacité de la surmonter. Oui. Ça, c'est vraiment un dolo de courage. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de très rétrograde, par exemple? Parce qu'il y en a, hein.
Sur la femme.
Oui, il y a des monstruosités sur la femme, hein, qui disent que faut pas faire confiance à une femme.
Ben oui.
Voilà, que si on a un pantalon rapiécé, la femme ne sait pas nous dire bonjour, mais si on est très élégant, voilà. Donc il y a des horreurs comme dans toutes les cultures.
Ah oui, ouais. Alors justement, le monde est à nous. Voici venu le moment de la minute de Mémé.
Chaque dimanche, un jeune de l'équipe rencontre une grand-mère pour lui demander comment c'était à son époque et quels conseils elle pourrait donner aux jeunes d'aujourd'hui.
Et c'est Calypso qui est allé boire le thé chez Roselyne.
Mes petits agneaux. C'est l'heure de faire marcher vos neurones.
Oh, ben j'ai de connaissances et...
Ah oui?
On m'appelle mamie.
T'es super.
Bon, alors, allons-y.
Et tu vas voir que personne va me dire merci.
Bonjour, grand-mère.
Dans la société, on remarque tous les jours que, eh ben, on n'a pas les mêmes carrières que les hommes, on n'a pas les mêmes retraites. Moi, j'y suis, je vois bien que mes collègues hommes qui sont entrés en même temps que moi dans la profession, eh ben, ils ont gagné plus parce qu'ils ont été plus vite directeurs, parce qu'ils se sont arrêtés moins longtemps pour garder leurs enfants, parce que voilà, donc moi, j'ai moins de points, alors j'ai un peu moins d'argent.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'évolution des droits des femmes ?
Alors, des lois, il y en a parce qu'il y a des batailles. On va parler de la première grande bataille des années 70 sur l'avortement. Bon, la loi Veil, ça a été vraiment, je crois, un tournant d'humanité parce que pour la première fois, les femmes avaient le droit de maîtriser leur corps, Du coup, tout était possible.
Et comment est-ce qu'on peut faire changer les mentalités en dehors des lois ?
C'est une lutte, hein. Moi, chez moi, j'ai que des hommes. J'ai deux garçons et un compagnon. Bon, ils sont gentils, sympas, tout, mais c'est une bataille, quoi. Enfin, ça vient pas tout seul, hein, de dire « Non, non, je fais pas à manger ce soir parce qu'il n'y a pas la casserole que tu étais censée laver. » Faut aller au bout de ce truc, quoi. Et ça, c'est une bataille permanente et quotidienne. Et à RFI, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui écoutent parce que les hommes, ils ont plus de temps pour écouter que les femmes. Mais chacun doit réfléchir sur « Mais quelle société il veut ? Est-ce que c'est équilibrant et équilibré ?» de mépriser une partie de la population pour grandir ensemble et construire un monde meilleur. Si les femmes, elles sont éliminées de ça, et parce qu'on leur marche dessus en permanence, on perd, et les hommes aussi perdent.
Merci, grand-mère.
Fanny, notre Roselyne t'a fait réagir, ça te rappelle quelque chose ?
Ah bah ouais, complètement. En décembre dernier, j'étais au Parlement européen à Strasbourg pour réaliser en fait une enquête dans le cadre de mes études, justement sur le sexisme en politique, comme ça tombe bien. Et on était en pleine interview avec un député dans la grande cafétéria VIP du Parlement. Et à un moment donné, il y a un autre député masculin qui passe et qui nous voit attablés avec ce député, donc j'étais avec une collègue féminine, et qui dit « Eh bien, on se fait plaisir, me semble-t-il » référence donc au fait que monsieur était avec deux jeunes femmes. Je me demandais si vous, en tant que femme, vous avez rencontré ce genre de difficultés dans la construction de votre carrière politique, justement.
Oui, le sexisme est présent, il est présent dans les univers violents et l'univers politique est particulièrement violent. Donc le sexisme est là, c'est-à-dire le mépris, la condescendance, la référence systématique au physique. Bon, il faut leur donner des baffes verbales, c'est-à-dire qu'il ne faut rien laisser passer. Souvent, les femmes sont plus scrupuleuses. Elles sont pas plus scrupuleuses génétiquement, mais culturellement et historiquement. C'est-à-dire que nous, femmes, nous portons la mémoire, consciente ou inconsciente d'ailleurs, nous portons la mémoire de l'oppression, nous portons la mémoire de la domination. Donc nous portons la mémoire de l'obligation de montrer, de démontrer. C'est ça. De sorte que souvent, les femmes sont effectivement plus scrupuleuses et vont au bout de leur dossier. Donc il faut leur rappeler ça, non pas, et puis leur rappeler que leurs filles doivent avoir les mêmes chances que leurs fils. Il faut leur rappeler ça. Mais surtout, il ne faut rien laisser passer parce qu'en fait, il faut continuer à les éduquer.
Christiane Taubira, la semaine dernière, nous avons reçu Hamid Souleyman. C'est un artiste syrien réfugié en France. Il est l'auteur de Freedom Hospital, un roman graphique. Et il a une question pour vous.
Bonjour Madame Taubira. Est-ce que si vous pensez que c'est possible d'avoir un président ou une présidente pour la République française qui vient d'origine étrangère?
Moi, je pense que la société française est en mesure d'élire un président ou une présidente qui vient d'un pays étranger ou qui est français, qui a une apparence qu'on assimile souvent aux étrangers, parce que la discrimination, c'est lié à ça. La discrimination à l'apparence, c'est que on voit Geneviève, par exemple, et on considère que Geneviève n'a rien à faire ici. Bon, c'est ça.
Exactement.
Voilà, c'est ça la discrimination. Donc, moi, je pense que la société est prête. Que la classe politique y soit prête, ça, j'en suis beaucoup moins sûre, malheureusement. Mm-hmm. Alors que ça devrait être l'inverse.
Comme le monde, l'heure tourne.
Et en guise de bilan, nous posons cette question à tous nos invités. C'est la question à 20 ans.
J'ai ma flamme, mes 20 ans. Moi, je les ai vécus dans l'ombre, avec pour seul envie l'amour, et puis de dévorer le monde.
Non, je ne regrette rien.
Fanny, c'est à toi.
Christiane Taubira, est-ce que la femme que vous étiez à 20 ans serait fière de celle que vous êtes aujourd'hui ?
Je crois, parce que je n'ai jamais rien trahi. Et c'est ce qui me paraît le plus important. J'avais des idéaux à 20 ans, je les ai encore. J'ai toujours la même rage contre les inégalités, contre les injustices. J'ai toujours la même joie de vivre, j'ai toujours la même curiosité vis-à-vis des autres, la même passion pour la culture, pour les arts. J'ai une ardeur de 20 ans qui est encore vivante.
Christiane Taubira, c'est un rituel pour tous nos invités. On leur demande d'apporter un objet qui parle d'eux. Le vôtre, qu'est-ce que c'est ?
Alors, j'ai apporté un petit walwari. Ça, c'est un éventail qui a la particularité d'avoir le même nom en langue amérindienne et en langue créole. Il est tressé en feuilles d'arrouman. Et pour moi, il a une double symbolique puisque j'ai créé un parti qui s'appelle walwari. Et pour moi, le symbole, c'était le spectre. Voilà, nous sommes différents. Mais nous tenons ensemble.
Vous aviez quel âge quand vous l'avez créé ?
Walwari, il y a juste 20 ans. Un peu plus, oui, 20 ans.
À 20 ans.
Voilà. Ah
bon. Non, non 20 je n'avais pas 20 ans, non. Il y a 20 ans.
Il y a 20 ans.
Ah, non, je n'avais pas 20 ans, il y a 20 ans. Et puis la deuxième symbolique, c'est vraiment de toujours donner de l'oxygène aux idées, c'est-à-dire voilà, de toujours rafraîchir les idées, les belles idées, les idées fondamentales, il faut constamment les rafraîchir.
L'art et la manière de donner des symboles aux objets. Juste avant de se quitter, la séquence de dédicace. Thomas.
Gros bisous à ma grand-mère britannique qui nous écoute aujourd'hui.
Fanny.
À ma meilleure amie Laetitia.
Geneviève.
Gros bisous à tous les malgaches.
Fabien.
Oui, j'en place une pour Romain, son anniversaire aujourd'hui, et pour Ivry-sur-Seine.
Kaina.
Bisous à papa, maman et les garçons.
Et Christiane, peut-être.
Bisous à la jeunesse qui est notre avenir.
Et mention spéciale pour Victor Hull de l'autre côté de la vitre du studio.
Merci Christiane Taubira d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui pour partager vos idées.
Le monde est à nous, c'est fini pour aujourd'hui.
Mais on se retrouve la semaine prochaine.
Oui. Philippine, Lou, Thomas, Xavier et Pauline recevront la chanteuse et feuilleuse Julia Palombe et le docteur Capote pour parler sexe. Comment aborder ça ou ces premières fois?
Et si tu trouves le temps trop long, sache qu'on reste connecté pour toi en permanence.
Sur Twitter, Facebook et Tumblr.
On est partout.
Tu peux retrouver les coulisses de l'émission, la fabrication des rubriques en images et des petites pépites sonores.
Salut à tous.
Salut.
Ciao.
Autour de la question.